Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Merci de votre fidélité. Comme chaque samedi à cette heure-ci, nous allons revenir sur 7 jours d'actualité grâce au reportage de la rédaction.
Une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
Et nous allons nous rendre par exemple en Syrie, aux États-Unis, en Algérie, au Nigeria et au Sénégal aussi. Cette semaine, nous allons beaucoup parler du regain d'intérêt pour l'armée française en France avec notre invitée Isabelle Lasserre qui vient d'écrire « Le réveil des armées », un livre publié chez Jean-Claude Lattès. Auparavant, partons pour le Vietnam pour évoquer la nouvelle rencontre Trump-Kim Jong-un. Donald Trump et le leader nord-coréen ont affiché leur optimisme mercredi au début de leur deuxième sommet à Hanoï, 8 mois après leur rencontre historique de Singapour, pour déboucher finalement sur un échec, une impasse. Reportage jeudi de Stéphane Lagarde.
Malgré la pluie, les esprits s'échauffent chez les confrères sud-coréens. Il est plus de minuit devant le Melia Hotel de Hanoï, 11 heures après l'échec des négociations du sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump. La délégation nord-coréenne vient d'improviser une conférence de presse. Poncho, parapluie se bouscule sur les barrières métalliques, tout le monde ne peut pas rentrer. À l'intérieur, costume sombre, pins des dirigeants à la boutonnière. Ri Yong-ho, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, accuse Washington d'avoir fait échouer les négociations.
Pendant la réunion, les États-Unis ont insisté pour que nous allions plus loin que le démantèlement du site de Yongbyon. À partir de ce moment, il est devenu clair que les États-Unis refusaient nos propositions. Il n'est pas sûr qu'une telle occasion se représente.
La diplomatie nord-coréenne affirme avoir proposé le maintien du gel de tous ses essais contre l'exemption sur 5 régimes de sanctions visant la Corée du Nord. En refusant notre proposition, les États-Unis ratent une opportunité qui ne se présente que tous les 1000 ans, a ajouté Cho Sun-hui, la vice-ministre des Affaires étrangères.
Une semaine d'actualité à écouter aussi sur le site de la radio, www.rfi.fr et sur notre application RFI Pure Radio. Bonjour Isabelle Lasserre.
Bonjour.
Bienvenue dans le studio. Merci d'être venue commenter avec nous l'actualité de la semaine et parler de votre livre qui va être au centre de l'émission. Vous êtes journaliste au Figaro, au service étranger du quotidien. Vous en êtes d'ailleurs la rédactrice en chef adjointe. Isabelle, avant de parler du réveil des armées, pour reprendre le titre de votre livre, que pensez-vous de cette évolution lors de la rencontre Trump-Kim Jong-un? Tout le monde était content au début, ça s'est gâté très vite.
Écoutez, c'est pas très étonnant, ça montre les limites de la méthode de Donald Trump, qui cette espèce d'art du deal dont il se gargarise depuis le début et qui en fait se heurte à un mur. Et là, ce mur, c'est que Kim Jong il considère que la bombe nucléaire est vraiment un aspect absolument essentiel de sa survie. Il a eu sous les yeux ces dernières années des contre-exemples à ne pas suivre, c'est-à-dire la Libye, l'Irak, l'Ukraine, autant de pays qui ont accepté de se débarrasser de leurs bombes nucléaires et dont les pays ou les dirigeants ont été écartés ou envahis. Et il sait que la bombe nucléaire est la seule chose qui puisse empêcher cela. Il a un autre exemple sous les yeux, le leader nord-coréen, c'est celui de l'accord sur le nucléaire iranien qui a été déchiré par Donald Trump et qui pose une question à la planète entière. Que vaut aujourd'hui la parole américaine? Donc il n'est pas anormal que les deux leaders continuent à avoir une vision totalement différente de ce que veut dire la dénucléarisation du pays. Et pour l'instant, le leader nord-coréen n'a absolument aucune intention de se débarrasser de ce qui protège son régime.
Alors, ce qui est frappant, c'est que tous les spécialistes, tous les observateurs des États-Unis, les correspondants de presse, y compris le vôtre, au Figaro, Isabelle Lasserre, notent l'amateurisme quand même. Il n'y a pas eu de préparation, visiblement, de cette rencontre.
Il n'y a pas eu de préparation et il y a notamment eu une grande impréparation de ce deuxième sommet. C'est-à-dire qu'on pourrait presque dire que Donald Trump a mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que, en général, gratifier ainsi les autorités nord-coréennes, la dictature nord-coréenne, d'un sommet avec le leader de la plus grande puissance mondiale, en général, ça arrive quand le deal a déjà été tacitement, voilà, oui. C'est fait pour entériner et non pas parce que là ça a été considéré comme un cadeau qui dope la légitimité de Kim Jong-il c'est un petit peu à l'envers. Donc c'est effectivement beaucoup d'impréparation, une espèce de naïveté, hein, c'est-à-dire que Donald Trump d'abord il a mis une forte pression, il a parlé de sanctions, il a menacé de fureur, de feu, de sang la Corée du Nord si Kim n'obtempérait pas, et aujourd'hui il joue copain, on est partenaire, on est alliés, on va manger des hamburgers.
Il a même dit qu'il vivait une histoire d'amour.
On peut repartir dans un conflit plus dur verbalement dès demain.
Ouais. Isabelle Lasserre, l'armée a de nouveau la cote en France alors ?
Ah ça, clairement. Plus de 80%, donc les pourcentages d'amour de l'armée, hein, ou d'adhésion à ses valeurs et à ce que représente l'institution sont systématiquement au-dessus de 80%, parfois même au-delà de 85%. L'armée est plus populaire que les journalistes, que les hommes politiques, que les policiers, que l'école, que tout le monde.
Hein, oui.
Il y a pas de mal, oui. Mais c'est vraiment l'institution la plus populaire aujourd'hui, et ça fait plusieurs années, notamment depuis les attentats terroristes. On a vraiment assisté à un saut de popularité à ce moment, et saut qui pour l'instant se maintient relativement haut.
Et vous dites, Isabelle Lasserre, que pour beaucoup de Français, ceux qui portent l'armée au pinacle, cette armée est devenue, je vous cite, le bastion de valeurs morales dans un monde où ces valeurs sont plus ou moins respectées.
Oui,
c'est-à-dire
qu'aujourd'hui, l'armée est encore une institution à laquelle on peut associer des noms ou des valeurs ou des symboles que sont l'autorité, l'unité, l'intégration, l'égalité, l'ordre, autant de valeurs ou de notions qui manque aujourd'hui cruellement aux Français, en tout cas selon les sondages, hein, c'est pas un jugement de valeur, et qu'on retrouve beaucoup moins à l'école, dans les syndicats, dans toutes les institutions, un besoin de France aussi, un amour de la patrie, ça revient, ça aussi beaucoup chez les gens, et l'armée en même temps a changé, hein, elle s'est un petit peu dépoussiérée, modernisée, elle a épousé, l'armée épouse toujours, elle suit les mouvements de la société, hein, donc elle a changé, mais en même temps, toutes ces valeurs, ce corpus de valeurs républicaine aussi, hein, n'a pas bougé, et ça, les Français se reconnaissent vraiment là-dedans.
On va continuer à en parler, bien sûr.
Sept jours dans le monde.
Partons maintenant pour le Cachemire, Isabelle Lasserre. L'Inde a procédé mardi à une frappe aérienne au Pakistan qui visait, selon elle, un groupe islamiste. Ce raid a provoqué un nouvel accès de fièvre entre ces deux puissances nucléaires autour de la région disputée du Cachemire. À New Delhi, Antoine Guinard.
On attendait une réponse militaire de l'Inde après un des attentats les plus meurtriers perpétrés contre son armée depuis 30 ans. Vers 3h30 du matin ce mardi, 12 avions de chasse Mirage 2000 de l'armée de l'air indienne ont foncé vers la bourgade de Balakot, où se situent plusieurs camps d'entraînement du Jaïch-e-Mohammed de Pakistan. Selon New Delhi, les pilotes indiens auraient anéanti une des bases les plus importantes de ce groupe terroriste qui a revendiqué l'attentat du Cachemire le 14 février. Cette offensive militaire, qui a duré en tout à peine une vingtaine de minutes, risque de faire monter les tensions entre les deux frères ennemis d'Asie du Sud. Islamabad a de son côté confirmé que les pilotes indiens avaient violé son espace aérien et affirme avoir lancé sa propre armée de l'air à leur poursuite. En Inde, l'ensemble de la classe politique a salué cette frappe chirurgicale, alors que le gouvernement faisait état depuis 10 jours d'une offensive indienne au Pakistan, en représailles à l'attentat au Cachemire indien.
Face à cette attaque, Isabelle, le Pakistan a joué la carte de la modération d'évidence. Le Premier ministre, par exemple, Imran Khan, s'est adressé à ses compatriotes mercredi à la télévision.
C'est un discours solennel et court qu'Imran Khan a tenu face à la nation, un discours qui tranche avec le ton guerrier des médias pakistanais. Le Premier ministre a appelé au dialogue et à la paix, et maintenant on va où, a-t-il demandé à son voisin indien, rappelant les armes très meurtrières dont disposent les deux puissances nucléaires. Imran Khan a aussi expliqué que le Pakistan n'avait aucun intérêt à nourrir des mouvements extrémistes sur son sol. Il aura toutefois du mal à convaincre la communauté internationale quand trois pays voisins l'accusent d'être un épicentre du terrorisme. Il y a 10 jours, c'est l'Iran qui imputait au Pakistan un attentat qui a fait 27 morts. L'Afghanistan continue de son côté de subir l'insurrection des talibans, dont Kaboul et Washington affirment qu'ils sont téléguidés par les services secrets pakistanais. Reste l'ennemi originel, l'Inde. Islamabad devra expliquer pourquoi Jaish et Mohammed, un groupe qualifié de terroriste par l'Organisation des Nations Unies, n'a toujours pas été neutralisé. Le mouvement a revendiqué l'attentat suicide du 14 février au Cachemire indien, déclencheur de cette nouvelle crise indo-pakistanaise.
À suivre bien sûr dans nos journaux, suite d'une semaine d'actualité en compagnie d'Isabelle Lasserre pour son livre « Le réveil des armées ». Avec une préface d'ailleurs du général Henri Banteja aux éditions Jean-Claude Lattès, un commentaire sur ce qui se passe dans un des points chauds les plus dangereux de la planète. On l'oublie souvent, le Cachemire.
Un des endroits les plus chauds de la planète et sans doute l'endroit de la planète où la possibilité d'un conflit nucléaire est la plus, non pas probable, mais là où le danger est sans doute le plus grand.
Nous avons deux puissances qui sont dotées de l'arme nucléaire, Pakistan et l'Inde.
Deux puissances dotées de l'arme nucléaire qui se sont livrées plusieurs guerres, et depuis 15 ans les tensions de la relation bilatérale sont absolument incessantes. Donc à chaque fois on a peur que ça dégénère. Ce qui est nouveau aujourd'hui, en fait, c'est que d'habitude c'est l'Inde qui finit toujours par temporiser. Aujourd'hui, c'est le Pakistan. On est à une inversion des rôles, peut-être parce que l'Inde est en campagne préélectorale et que l'opinion nationaliste, qui est un peu chauffée à blanc, ne supporterait pas une nouvelle, enfin pas recul, mais la deuxième chose qui est très frappante, enfin qui est très inquiétante aujourd'hui, c'est que c'est l'absence de médias américaine. À chaque fois qu'on a eu une crise dangereuse entre l'Inde et le Pakistan, les États-Unis sont arrivés à la rescousse pour essayer de faire baisser la tension d'un côté et de l'autre et d'user de leurs canaux. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Pourquoi c'est plus le cas? D'abord parce que les États-Unis n'ont plus autant d'influence sur le Pakistan qu'ils n'avaient avant, à l'époque de la guerre américaine en Afghanistan. Les Américains étaient quand même beaucoup plus impliqués au Pakistan, notamment pour éviter justement que les armes nucléaires ne tombent aux mains de personnes peu recommandables. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est Donald Trump qui est complètement obsédé par d'autres dossiers. Bon, là, c'était le sommet de Hanoï entre la Corée du Nord et les États-Unis. Mais plus globalement, il y a un retrait américain du Moyen-Orient, d'Europe, pour se recentrer plutôt du côté latino-américain. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu la diplomatie américaine, qui au demeurant est un peu chaotante en ce moment, sauter sur cette nouvelle crise. C'est un peu gênant parce qu'en général, c'est les États-Unis qui calment les choses. Alors, qui va calmer les choses là ?
Alors, ce qui est frappant, pour revenir à l'armée française, au sujet de votre enquête, Isabelle Lasserre, c'est que depuis la fin de la guerre froide, l'armée française est engagée de façon très active sur tous les théâtres d'opération. Ça a commencé en 90-91 avec la première guerre du Golfe. Et depuis, ça n'a pas cessé. Donc, cette armée, qui avait perdu l'habitude d'intervenir, en quelque sorte, a changé totalement sa doctrine.
Ah, ça, c'est l'armée française est une armée de projection. C'est d'ailleurs la principale armée de projection d'Europe. Et sans doute une des et aussi d'ailleurs, je peux enlever le sans doute, une des principales armées de projection du monde. Il y a d'abord les interventions africaines qui ont longtemps servi à soutenir des régimes amis ou alliés, parce qu'on avait des accords de défense. Et puis ensuite, il y a toutes les crises. Depuis le début des années 90, cette grande période de l'interventionnisme et du droit d'ingérence aussi, qui a mené les armées françaises
dans des zones qui n'étaient pas ces zones traditionnelles.
Oui, dans des zones qui n'étaient pas ces zones traditionnelles. Enfin, l'Afrique reste une.
Oui, bien sûr, à part l'Afrique, bien sûr.
Et en Syrie et en Afghanistan. l'Afghanistan. Donc, on pourrait aujourd'hui, les mois qui viennent et les années qui viennent nous le confirmeront ou le démentiront, mais il est possible qu'on assiste dans les temps qui viennent à un petit ralentissement de ces interventions à l'étranger. D'abord pour des raisons financières, hein, parce que c'est vrai que les armées françaises, même si elles sont mieux loties que les autres armées européennes, traînent un petit peu de la langue, hein. Franchement, financièrement, c'est compliqué de tout mener de front. Et ensuite, parce que le bilan qui est tiré des interventions militaires à l'étranger depuis 20 ou 30 ans est assez médiocre.
On va en parler dans un instant.
Une semaine d'actualité.
Partons maintenant, Isabelle Lasserre, pour les États-Unis, où les démocrates ont remporté mardi une victoire parlementaire face à Donald Trump, encore lui, avec le rejet par la Chambre des représentants de l'urgence nationale, c'est entre guillemets, décrétée par le président afin de vouloir édifier son mur anti-immigration clandestine à la frontière mexicaine. À Washington, Anne Corpé.
Il ne s'agit pas de politique, il s'agit de la Constitution des États-Unis, déclare Nancy Pelosi, la chef de la majorité à la Chambre, brandissant le texte des pères fondateurs. Les démocrates estiment qu'avec sa déclaration d'urgence nationale, le président a outrepassé ses fonctions et ils utilisent les propres mots de Donald Trump pour contester sa décision. Norma Torres, représentante de Californie.
Le président lui-même l'a dit. Je n'avais pas besoin de le faire, mais cela me permet d'agir plus vite. Construire un mur plus rapidement n'est pas une urgence. C'est du théâtre politique.
Côté républicain, Mo Brooks, élu de l'Alabama, ne s'embarrasse pas de nuances. Il évoque les dizaines de milliers de victimes de la drogue aux États-Unis pour justifier la décision de Donald Trump.
Les démocrates cherchent à empêcher le président Trump de sauver des vies américaines. Aucune déclaration d'urgence dans l'histoire n'a été suscitée par la mort d'autant d'Américains que celle décrétée par le président Trump.
La résolution qui annule la déclaration d'urgence est finalement adoptée. 13 républicains ont voté avec les démocrates contre la décision du président américain. Si le texte est adopté par le Sénat, Donald Trump sera contraint d'opposer le premier veto de sa présidence.
À Washington, toujours, notez aussi que l'ex-avocat Michael Cohen a livré mercredi une charge d'une grande violence contre son ancien client, Donald Trump, encore, accusé d'être un escroc menaçant aux liens suspects avec la Russie et qui n'a pas hésité à acheter le silence d'ancienne maîtresse. Michael Cohen a achevé son témoignage à charge contre le président américain avec une mise en garde étonnante. L'homme d'affaires n'acceptera pas de quitter la Maison-Blanche pacifiquement s'il n'est pas réélu en 2020. Isabelle Lasserre, ce n'est pas une surprise, vraiment, le procureur général d'Israël a informé jeudi en pleine campagne électorale le Premier ministre Benjamin Netanyahou de son intention de l'inculper et de le faire juger pour corruption, fraude et abus de confiance à Jérusalem. Guilhem Deltaï.
Pour le procureur général, c'est dans le dossier dit 4000 que les faits reprochés à Benjamin Netanyahou sont les plus lourds. Dans cette affaire, le Premier ministre est soupçonné d'avoir tenté de négocier une couverture favorable de la part d'un influent site d'information, voilà, en contrepartie de faveurs gouvernementales accordées au propriétaire de ce site, le géant des télécommunications Bezeq. C'est dans ce dossier qu'Avirai Mendelblit veut mettre en examen Benjamin Netanyahou pour corruption, fraude et abus de confiance. Dans les deux autres affaires arrivées sur son bureau, il n'a pas retenu l'ensemble des charges recommandées par la police. Le chef d'accusation de corruption ne figure pas dans les enquêtes sur les cadeaux offerts par de riches hommes d'affaires, ni dans celles sur une tentative d'accord avec le propriétaire d'un grand journal, Yedioth Aharonot. Dans la lettre accompagnant sa décision, le procureur général attaque sévèrement le Premier ministre. Vous avez abusé de votre autorité en prenant en compte d'autres considérations liées à vos intérêts personnels et à ceux de votre famille, écrit-il. Avichai Mendelblit précise toutefois que sa décision n'est pas finale. Avant qu'elle ne le devienne, Benjamin Netanyahou sera convoqué à une audition au cours de laquelle il pourra répondre au chef d'accusation. Elle ne devrait pas avoir lieu avant les élections.
Direction la Syrie maintenant, avant de vous retrouver, Isabelle Lasserre, pour évoquer cette fois la fin des combats contre l'organisation de l'État islamique à Barouz, précisément, on en parlait déjà la semaine dernière. De Beyrouth, Paul Khalife a fait un point mercredi.
Depuis l'annonce par la coalition arabo-kurde soutenue par les États-Unis de son intention de lancer l'assaut final contre Barouz le 9 février, 15 000 civils ont évacué cette poche de 4 km2 selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Rien que ces deux derniers jours, 3 600 civils et 470 combattants du groupe État islamique ont quitté ce réduit à l'est de l'Euphrate à bord de camions affrétés par les forces démocratiques syriennes, les FDS. Depuis le 1er décembre, 51 000 civils ont évacué le dernier territoire encore contrôlé par l'organisation extrémiste en Syrie. Malgré cela, un nombre indéterminé de combattants, dont des dizaines de hauts dirigeants de l'EI, refusent toujours de se retirer et affirment vouloir se battre jusqu'au bout. Des centaines de civils se trouvent avec eux dans un vaste réseau de tunnels creusés sous la ville. La présence de ces civils et le manque d'informations précises sur le nombre de combattants encore présents retardent l'assaut final des FDS. Les négociations indirectes se poursuivent avec la faction la plus extrémiste des djihadistes, qui comprend de nombreux étrangers, pour les convaincre de cesser le combat. Selon les renseignements recueillis auprès de combattants qui se sont rendus ces derniers jours, les réserves en eau et en nourriture commencent à manquer à Barouz. Cette pénurie pourrait pousser les djihadistes les plus déterminés à déposer les armes.
À suivre bien sûr dans nos journaux et sur le site RFI.fr. Suite d'une semaine d'actualité. Isabelle Lasserre, on va revenir sur la Syrie dans un instant. Vous voulez dire un mot sur le vote des démocrates aux États-Unis?
Il y a une chose qui me frappe. La semaine dernière, je discutais avec un jeune politologue américain d'origine juive allemande qui s'appelle Yasha Munk et qui vient d'écrire un livre formidable qui s'appelle Le peuple contre la démocratie. Et il disait la chose suivante. Il disait: quand les peuples vivent dans, ont l'impression que le système politique est légitime, est bon pour eux, c'est les mots qu'il employait, ils sanctionnent systématiquement les responsables politiques qui mentent. Mais quand les peuples ont l'impression que le système est illégitime, que les élites ne servent que leurs propres intérêts et ne servent que les plus riches, ils ne sanctionnent plus les mensonges, ils vivent avec le mensonge et ils acceptent les mensonges et ils soutiennent les populismes. Et alors, c'est marrant parce que, enfin, ça me fait vraiment penser à ça, c'est-à-dire que les démocrates s'acharnent à essayer de faire déraper Donald Trump sur tous les dossiers possibles, et Dieu sait qu'il n'en manque pas.
Il y a un certain nombre, ouais.
Et en même temps, je pense que l'électorat de Donald Trump s'en fiche un peu. Il continue à voter Donald Trump, et le résultat de cette, enfin l'analyse qu'on fait de tout ça, c'est l'extrême polarisation de cette société américaine entre deux partis qui n'arrivent plus à communiquer et qui sont tellement aux antipodes. Voilà, c'est ce que ça m'inspirait.
Isabelle, on va parler dans votre livre, dans cette enquête, Le réveil des armées. Vous consacrez un chapitre à la réflexion que mène l'armée aujourd'hui, et elle est réelle. Beaucoup d'officiers écrivent, réfléchissent à la guerre aujourd'hui, au conflit, à la géopolitique. Il se trouve que cette semaine, un de ces officiers, François-Régis Légrier, a défrayé, malgré lui, la chronique, parce que un quotidien français a publié un papier, un article qu'il avait écrit sur la Syrie, la bataille d'Akhrin, très précisément. Texte qui avait d'abord été publié dans la revue de Défense Nationale et qui finalement ne l'est plus pour des raisons politiques. Et l'analyse de cet officier est très, très lucide. Il écrit par exemple à la fin de son article: nous avons détruit, en parlant de la Syrie, nous avons massivement détruit les infrastructures et donné à la population une détestable image de ce que peut être une libération à l'occidentale, laissant derrière nous les germes d'une résurgence prochaine d'un nouvel adversaire. Ça, c'est lucide. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette réflexion à l'intérieur de l'armée. Malheureusement, elle sort peu dans le grand public, mais elle existe. Et elle est parfois brillante aussi.
Les analyses, bien évidemment, à l'intérieur de la grande muette, les esprits foisonnent et ils sont souvent brillants, et en plus ils se remettent régulièrement en cause et en question. Ça appelle deux remarques, en fait. La première remarque, c'est que c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui pensaient que l'armée avait enfin la parole libérée. Elle était muselée, cette parole, depuis le putsch d'Alger, et l'espèce de retour de manivelle qui avait imposé aux militaires et aux officiers de fermer leur bouche et de réfléchir en silence. Mais on pensait que cette période était qui a subi, après qui s'est un peu ouverte, puis refermée, puis réouverte, au gré des présidents et des et des événements. Là, on a quand même un chef d'état-major, le général Lecointre, qui est issu d'une revue qui s'appelle la revue Inflexion, qui prône les confrontations des idées entre civils et militaires, et qui dit la parole doit être libérée, les officiers doivent s'exprimer, ils doivent parler, on doit critiquer, on doit se remettre en cause. Et alors là, le premier qui met en pratique ces conseils et menace aujourd'hui d'être sanctionné. Alors on dira, ok, c'est parce que en fait il l'a fait quand il était encore en mission. Enfin, quand même, hein, y a une énorme différence entre les traditions anglo-saxonnes et françaises dans les armées. Aux États-Unis, on peut, quand on est un général et un officier, critiquer, écrire des papiers dans les journaux, se remettre en question. La parole est libre, est ouverte. En Grande-Bretagne, il y a de constants allers-retours entre l'armée et le civil, de manière beaucoup plus fluide qu'en France. Et là, c'est une mauvaise nouvelle si jamais il est sanctionné.
Oui, parce que cet article, je le répète, a d'abord été publié sur une vénérable revue de référence, la revue de la Défense nationale, et retiré précipitamment sur injonction du pouvoir politique.
Oui, mais c'est ministère de la Défense, en l'occurrence. C'est absolument incroyable, en fait. Ça correspond pas du tout à l'époque qu'on est censé vivre quand on écoute le chef d'état-major des armées qui, encore une fois, l'a dit plusieurs fois, noir sur blanc, libérez-vous. Les officiers doivent parler.
La deuxième chose que vous vouliez dire, Isabelle, c'est porte sur la Syrie, peut-être.
Alors la deuxième chose, c'est la Syrie. Il y a plusieurs choses à dire. Hein, c'est que d'abord, il reproche quand même aux Français, en fait, et aux Occidentaux, hein, de ne pas avoir mis des troupes sur le terrain pour régler le problème. C'est vrai et c'est faux à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a même si on ne communique pas beaucoup là-dessus, il y a énormément de troupes spéciales, de forces spéciales américaines bien sûr, et aussi françaises en Syrie. Donc les troupes, donc on a des troupes terrestres sur leur terrain. Ensuite, la deuxième chose, c'est que quand on a mis des troupes au sol, on peut prendre deux exemples, hein, les Français et les Américains en Afghanistan, ou les Américains tout seuls en Irak, ça n'a guère donné de résultats plus probants. Et l'anti-force occidentale s'est quand même développée. Quant aux dégâts collatéraux, les Américains en ont beaucoup fait. Ils en font de toute façon beaucoup moins que les autres. Mais alors, s'il y a vraiment une armée qui est très forte dans le non-dégât collatéral, c'est l'armée française qui fait toujours très attention. En Afghanistan, elle en a quasiment pas fait. Et ça n'a pas empêché l'échec total de l'intervention.
Oui, et des victimes dans l'armée française, là, pour le coup. Hein. Mais on n'a pas le temps d'analyser ce texte qui est passionnant par ailleurs. Mais lui critique aussi le fait que l'armée française, avec une intention respectable, c'est zéro victime en son sein. Il s'interroge, il dit pourquoi entretenir une armée que l'on n'ose pas engager ? C'est une question qu'il pose. Il critique aussi le fait que la France soit, en gros, le supplétif un petit peu des Américains, soit sous commandement américain, massivement.
Oui. Mais alors là, on peut faire deux réponses. La première réponse, c'est le symbole politique qui, parfois, entre alliés, compte autant que la participation sur le terrain. Et la deuxième réponse, c'est que il est difficile de ne pas participer à cette guerre quand on est le pays d'Europe qui a été le plus victime des attentats terroristes et qu'on a plusieurs centaines de djihadistes français sur place.
Une semaine d'actualité.
Et parlons un peu de la France maintenant, Isabelle Lasserre. Pour reprendre une image un peu usée, c'est le moins qu'on puisse dire, Air France KLM est entrée dans une zone de forte turbulence mardi avec l'irruption surprise de l'État néerlandais au capital de la compagnie. État désireux, semble-t-il, de défendre ses intérêts, c'est normal. Cette opération a été accueillie froidement par le gouvernement français. Correspondance régionale de Pierre Benazé.
Dans l'ensemble, les réactions aux Pays-Bas sont largement favorables à ce rachat d'actions de KLM, et on peut citer par exemple un rapide sondage effectué par le populaire quotidien De Telegraaf, où 80% des lecteurs sondés ont déclaré ce mercredi soutenir l'action du gouvernement néerlandais. Au Parlement, plus précisément la deuxième chambre des États généraux des Pays-Bas. Certains partis, comme les Verts, critiquent l'intrusion du politique dans l'économie, mais la plupart des partis soutiennent l'action gouvernementale. Le gouvernement batave veut garantir l'avenir de KLM, un des 10 premiers employeurs du Royaume, ainsi que l'avenir de Schiphol, l'aéroport d'Amsterdam, où KLM représente chaque année 35 millions de passagers, soit la moitié de la fréquentation. En fait, la motivation principale du gouvernement néerlandais est d'éviter ce qu'on appelle ici un scénario catastrophe à la belge, c'est-à-dire de voir KLM se retrouver un jour dans une position similaire à celle de la compagnie aérienne Sabena. Elle a dû mettre la clé sous la porte en 2001, après 80 ans d'existence, alors que le gouvernement belge avait cru bon de vendre ses parts à Swissair, pensant assurer l'avenir de la compagnie nationale.
Les ministres de l'économie des deux pays se sont rencontrés hier, vendredi. Un processus va être lancé, disent-ils, pour améliorer la performance des deux compagnies. Les djihadistes français détenus en Irak seront jugés dans ce pays. Confirmation en a été donnée par les présidents irakiens et français à l'Élysée cette semaine. Oriane Verdier.
Les présidents irakiens et français ont fait front commun ce mardi sur la question des djihadistes français. Selon Emmanuel Macron, il revient aux autorités irakiennes de décider souverainement de juger ou non ces prisonniers, dont il a même refusé de confirmer la nationalité. Pour Bahram Saleh, il est naturel que l'Irak juge toute personne ayant commis des crimes sur son territoire. Les deux présidents ont abordé le sujet à la demande des journalistes, mais la priorité tout d'abord affichée était la collaboration franco-irakienne, économique, culturelle et militaire. Le président irakien a grandement remercié son homologue français pour le soutien apporté par Paris à Bagdad dans la reconstruction du pays. Difficile donc de lui demander par la suite de récupérer ses djihadistes. La justice irakienne est très critiquée par les défenseurs des droits de l'homme. Elle applique la peine de mort, mais elle est également jugée trop expéditive, principalement pour les prisonniers irakiens, jugés parfois sans avocat ou sur la base de simples dénonciations. Côté syrien, les forces kurdes, elles, appellent ouvertement à une prise de responsabilité des pays occidentaux quant à leur ressortissants faits prisonniers. Leur incarcération coûte cher et demande une organisation sécuritaire supplémentaire.
Isabelle, que pensez-vous de cette décision qui a été annoncée donc de jugement en Irak pour ces djihadistes plutôt qu'en France?
Ça arrange les autorités françaises, hein, le retour des djihadistes français.
Ça arrange tout le monde.
C'est vraiment le cauchemar des autorités françaises. On a un système judiciaire qui est assez pas assez souple pour juger ces gens-là. Et je crois que l'État français les préfère en Irak où les peines sont plus dures, où les peines sont plus longues, et à partir du moment plus rapide, où il n'y a pas d'ONG qui pourrait manifester. Enfin, c'est ça. Ce système a quand même quelques avantages en l'occurrence dans ce cas précis.
Et les défenseurs des droits de l'homme diront qu'ils ont droit aussi à une défense digne de ce nom, mais
oui,
c'est un débat.
À partir du moment où l'État français s'assure que la peine de mort ne sera pas appliquée contre ces djihadistes. Pour l'instant, il semble avoir un accord entre l'Irak et la France à ce sujet-là. Donc, c'est pour l'instant la meilleure solution.
Alors revenons rapidement à cette armée française. On va continuer à en parler, mais pour parler surtout de l'armée française en Afrique. En soulignant ce que vous faites dans le livre, d'ailleurs, que cette armée a profondément changé depuis la fin du service militaire, pour ne prendre que cette date-là, 1996. C'est pas la même armée, c'est pas l'armée de la conscription que l'on connaissait avant, c'est une armée professionnelle et technique.
C'est une armée professionnelle, c'est une armée technique, mais c'est aussi une armée qui a évolué avec la société. Donc aujourd'hui, c'est une armée qui est, par exemple, totalement ouverte au milieu issu de l'immigration. C'est une armée dans laquelle aujourd'hui on a des synagogues et des mosquées à côté des églises. C'est une armée dans laquelle aujourd'hui on reconnaît que l'homosexualité existe. C'était pas forcément le cas il y a 30 ans, c'était quand même beaucoup plus compliqué. C'est une armée dans laquelle les femmes poussent les portes et commencent à pouvoir gravir les échelons. Alors évidemment, on n'a pas encore de musulmans. Si, il y a un ou deux généraux, mais c'est vrai que les minorités ne sont pas encore arrivées
au poste de commandement.
Tout, ouais. Oui. Mais c'est une question de temps.
Oui. Isabelle, est-ce que les relations entre le président Macron et l'armée sont apaisées depuis le 19 juillet 2017 et le clash entre le général de Villiers, chef d'état-major des armées, qui a démissionné d'ailleurs, et l'autorité politique?
Écoutez, oui et non. Non, dans le sens où l'institution n'a pas oublié. Elle n'a pas oublié l'affront et l'humiliation qui a été faite à un chef
respecté,
populaire, honnête, droit, qui défendait l'institution, qui a été vraiment très, très malmenée depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc cet épisode n'a pas été oublié. L'armée est loyale, elle est fidèle et elle obéit aux ordres du politique. Donc elle s'est recroquevillée dans sa coquille.
Que les armes cèdent à la toge.
Voilà, que les armes cèdent à la toge. Elle a attendu. On lui a promis plus d'argent, donc elle a été en partie apaisée. Mais aujourd'hui, les craintes reviennent que cet argent promis ne soit, comme les fois précédentes, à nouveau rogné, volé, piqué, à la fois sous la pression de Bercy, des déficits budgétaires. Voilà. D'autant plus que, en fait, le plus gros afflux d'argent doit arriver juste après au tout début d'un deuxième éventuel mandat d'Emmanuel Macron. Que se passera-t-il si Emmanuel Macron n'est pas réélu?
Donc il y a une incertitude.
Oui.
Réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez toujours et encore à nous écrire. Un salut aujourd'hui à Laï qui nous écoute à Abidjan, à Alpha Idi, à Conakry, à Issouf, à Boromo, Burkina Faso, à Fadel, à Yaoundé. Un bonjour également à Oumar, à Kosseri, également au Cameroun, Daouda à Port-Gentil, Ibrahim à Ouagadougou. Enfin, un salut à Poséidon qui nous écoute au sud du Tchad, à Moundou précisément, sur le 100.2 FM, dit-il.
Jour en Afrique.
Cap vers le continent, donc Isabelle Lasserre en Algérie. D'abord, avec la colère des jeunes, les étudiants algériens, notamment dans la capitale d'Alger, se mobilisent contre la perspective d'un cinquième mandat du président Bouteflika. Il reste donc sourd à la demande du gouvernement de s'en tenir au seul verdict des urnes lors de la présidentielle du 18 avril prochain. Reportage mardi de Leïla Berato.
Le cinquième mandat, c'est trop, comme s'il n'y avait pas de relais.
L'appel avait été lancé pour 10 heures via les réseaux sociaux. Dans le quartier de Ben Aknoun, à la faculté des sciences de communication, Narimène avait prévu de manifester. Elle avait mis un drapeau dans son sac à dos.
Ils ont fermé les grilles de la cité universitaire et de la faculté. Et à un moment, il y a eu un mouvement de foule qui a fait qu'on a carrément arraché les barreaux de la porte vu qu'ils avaient mis des cadenas. Il n'y a pas eu débordement. Après, je trouve qu'il y avait quand même certains éléments perturbateurs.
Un cortège de plusieurs centaines d'étudiants parvient à s'élancer. Repoussés par les forces de l'ordre, ils prennent finalement la direction de l'autoroute en chantant « Non » au cinquième mandat. Walid et Amir ont 22 ans.
Quatre mandats déjà, la quatrième mandat c'est une faute. Alors là, la cinquième mandat, on est contre. On n'est pas contre Bouteflika, on est contre tout. On est contre le pouvoir.
Ces étudiants parviennent à marcher jusqu'au centre de la capitale où se rejoignent plusieurs cortèges de différentes facultés. En fin d'après-midi, des étudiants manifestaient toujours, des dizaines de personnes ont cependant été interpellées et des échauffourées ont débuté dans le quartier du Sacré-Cœur.
Et d'autres manifestations ont eu lieu hier, on vous en parle dans nos journaux. Isabelle Lasserre, cette question algérienne revient lancinante à chaque élection.
Elle revient lancinante aussi souvent que Bouteflika prépare
cinquième fois, donc,
un nouveau mandat. Mais par contre, là, ça se passe un petit peu moins bien. La dernière fois, la population l'avait accueilli son quatrième mandat avec une espèce de fatalité et d'indifférence au mieux. Aujourd'hui, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les Algériens en ont marre. Ils ont surtout honte d'être défendus par un vieillard, par une momie.
Alors que c'est un pays jeune.
Ils ont honte. Un pays jeune, de plus en plus jeune. Et cette jeunesse pousse sur les réseaux sociaux. Et là, il se passe quelque chose, c'est-à-dire en fait d'assez intéressant, c'est-à-dire que ces jeunes n'ont pas cette peur de la guerre civile comme leurs aînés, c'est-à-dire que la violence absolument sauvage des années 90 après la lutte contre l'islamisme n'agit plus visiblement comme un repoussoir. Et ils refusent pour l'instant quand même, on peut saluer le caractère relativement pacifique et ordonné des manifestations, hein. C'est pas comme les gilets jaunes en France aujourd'hui, l'Algérie.
Alors reparlons de l'armée française cette fois en Afrique. L'Afrique et l'armée française, c'est une vieille histoire, c'est pas à vous que je vais le dire, Isabelle Lasserre. L'armée en tant qu'armée est toujours présente en Afrique. Je ne parle même pas de l'opération au Mali, mais il y a encore des bases et des centres de l'armée en Afrique.
Il y a des bases
au Sénégal, au Gabon.
Oui, il y a des bases, il y a
Djibouti.
Il y a des bases, il y a des forces prépositionnées, et même au sein de l'armée, il y a toujours ce lobby des africanistes en fait qui ont hérité de la période coloniale et de toutes les interventions françaises en Afrique, une vraie connaissance du continent, un amour sans doute du continent aussi, et un vrai attachement à ce lien, y compris un lien militaire qui lie le continent noir. À la France en fait, hein, et qui s'opposent d'ailleurs ces africanistes souvent à ceux qui veulent diversifier les interventions et plutôt aller livrer des guerres là où les intérêts de la France sont selon eux autant menacés, même s'ils le sont de manière différente.
Alors il y a évidemment l'opération Barkhane qui a été lancée en 2014, il me semble, après l'intervention au Mali, et le ministère de la Défense a fait un bilan cette semaine, Isabelle. Nous apprenons qu'au total, depuis l'opération, 600 djihadistes ont été neutralisés, c'est un terme de l'armée, hein, et que beaucoup d'armes ont été saisies, des tonnes d'armes, et le ministère de la Défense dit ceci: on assiste au développement d'un djihadisme endogène qui recrute et forme localement, donc la menace est plus que jamais présente, on le constate d'ailleurs aussi au Burkina Faso par exemple.
Oui, alors les histoires de chiffres, hein, djihadistes neutralisés, c'est d'ailleurs c'est exactement la même chose que les talibans et Al-Qaïda en Afghanistan. Enfin, on peut bien dire 100, 200, 300, et on ne sait pas combien repoussent sur ces 200, 300 ou 300 qui sont morts. Donc le problème de chiffres n'explique pas la réalité de ce qui se passe. La réalité de ce qui se passe, c'est que l'extrémisme religieux est en train de s'étendre en Afrique, et notamment, il a repris, après avoir été un petit peu sonné par l'intervention des Français en janvier 2013, il a repris du poil de la bête. Tout le centre du Mali, par exemple, est aujourd'hui pris, en fait, enserré par les islamistes. Hein. Mmh. Il n'y a plus que des écoles coraniques, les filles peuvent plus aller à l'école. Le nord est retourné à ce qu'il était avant, c'est-à-dire un espèce d'état dans l'état sauvage sur lequel l'État n'a absolument aucun pouvoir et aucune présence. Et en fait, la situation, c'est totalement détérioré, alors même que l'intervention militaire française avait été un modèle de réussite militaire.
Ce qui veut dire que l'armée française va être là encore un moment, hein, ça va durer longtemps.
Ça va durer longtemps. En même temps, elle n'est plus là comme elle l'était avant. Aujourd'hui, elle est associée aux forces africaines locales.
Qui a du mal à se mettre en place.
Avec le G5 Sahel. Le problème, c'est que dans la région, c'est toujours l'armée française qui est la mieux équipée, la mieux formée et la mieux à même de faire le coup de feu contre les djihadistes.
Alors, prenons la route du Sénégal maintenant, Isabelle, après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle. victoire donc au premier tour de Macky Sall et beaucoup de ressentiment à Dakar jeudi. Guillaume Thibault.
Macky Sall a obtenu 2,5 millions de voix, trois fois plus que son adversaire le plus sérieux, Idrissa Seck, second du premier tour, qui obtient 20,5% des voix. Le taux de participation, plus de 66%, permet au président sortant d'asseoir sa victoire. Après son succès, autour d'une large coalition en 2012, Macky Sall voulait son élection, un scrutin qui ne laisse pas de place au doute. Pour parvenir à ce résultat, plus de 58%, le candidat a mis en avant son bilan économique, ses grands travaux qui endettent le Sénégal, affirment ses opposants. Pour sa campagne électorale, Macky Sall n'a rien laissé au hasard. Une véritable machine de communication a été mise en place, 21 jours sur tout le territoire, des meetings géants, des moyens importants comparés à ses quatre adversaires. Le président sortant doit désormais attendre les résultats définitifs de ce premier tour pour engager la suite de ses projets, pour poursuivre son plan Sénégal émergent. Une autre tâche complexe l'attend. Macky Sall, qui veut être le président de tous les Sénégalais, rappelle ses collaborateurs, va aussi devoir relancer le dialogue politique, apaiser les tensions pour gouverner sereinement.
Et je signale également, je vous rappelle qu'au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a été réélu. Nigeria, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière.
Une semaine d'actualité.
Terminons cette émission, Isabelle, en parlant de l'avenir de cette armée française et de sa cote. On a commencé avec ça. Vous émettez quelques réserves à la fin de votre livre sur la permanence, la durée de ces cotes de confiance, parce que tout ne va pas pour le mieux. Est-ce que c'est une mode?
Alors, la confiance, à mon avis, elle va durer parce que le contexte y est favorable, c'est-à-dire que le retour de la guerre, hein, dont les militaires ont pris conscience à Ouzbin en Afghanistan, la multiplication des menaces à la fois extérieures et intérieures. Mmh. Extérieures, c'est le retour de la Russie, etc., le Moyen-Orient, et intérieures, ce sont les attentats islamistes, favorisent ce rapprochement des Français vis-à-vis de l'armée. Ce qui est plus compliqué à assurer, en fait. Est-ce que l'armée va continuer à pouvoir recruter comme elle recrute depuis les attentats? Il y a eu un afflux en fait de jeunes qui sont allés vers l'armée. Et le problème, c'est que ils sont parfois un petit peu déçus. Ils pensaient pouvoir aller combattre tout de suite et défendre les couleurs de la France et du drapeau bleu, blanc, rouge et la patrie à l'étranger. Et ils se retrouvent, ces petits gars, souvent, à patrouiller dans les rues avec l'opération Sentinelle.
Et certains d'entre eux ont eu du mal à se mettre dans le cadre, dans le moule de l'armée, avec sa discipline.
C'est très contraignant, c'est parfois difficile avec une famille, une vie de famille, et les salaires ne sont pas très élevés, donc en fait beaucoup sont déçus. Et en fait, l'armée a encore beaucoup de mal à fidéliser ces jeunes recrues. Il faut qu'elle travaille là-dessus.
Merci Isabelle Lasserre. Votre livre s'intitule Le réveil des armées. C'est une radiographie de l'armée française aujourd'hui. Ce livre est publié chez Jean-Claude Lattès.
Merci.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Nous vous retrouvons demain pour le magazine Idées, celui qui interroge, vous savez, ceux qui pensent le monde. Nous parlerons cette fois de la propagande dans tous ces états, une histoire de la propagande et un état des lieux aussi aujourd'hui, à l'heure des fausses informations, des fake news, comme on dit, avec un spécialiste, David de Colomb, professeur à Sciences Po et auteur d'un ouvrage complet sur le sujet, la propagande, donc demain dimanche dans Idées, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.